Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de Parler Temps qui court, pour cette semaine en tout cas. Parler Temps qui court écoute les artistes pendant une heure, tous les soirs, et on est vraiment ravis de recevoir la réalisatrice Ezan Palsy.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout pépé.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec Ezan Palsy.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Que peut la justice des hommes dans une société basée sur l'injustice réservée à une partie d'entre eux ? Que peut l'éducation dans une société qui utilise l'ignorance des droits humains pour maintenir l'inégalité entre les noirs et les blancs ? Que peut la volonté d'une femme ou d'un homme qui veulent aller contre l'ordre établi ? Que peuvent les enfants pour leur propre futur ? De qui peut naître le regard nouveau pour un monde nouveau ? Du poète, du juge, du jeune élève, de la cinéaste ? Vous êtes l'invité d'honneur, Ezan Palsy, du Festival des films de femmes de Créteil, et vos films seront diffusés, rediffusés. Ils soulèvent et mélangent toutes ces questions. Je cite par exemple Une saison blanche et sèche projetée dans la grande soirée en votre honneur le samedi 23 mars à 21h. Vous donnerez aussi une masterclass à 15h30. Des lectures du texte de Marie Scondé et Aimé Césaire sont prévues à la Maison des Arts de Créteil le dimanche 24 mars à 15h30. Comme d'habitude, le programme de ce festival et le programme qui vous est spécifiquement consacré est vaste et généreux. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. En 1989, vous donniez une interview au journal Le Monde en disant « Où sont les journalistes noirs qui sont venus m'interroger sur mon travail ?» C'est important, je n'en ai pas vu. On est aujourd'hui 30 ans après, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous en avez rencontré davantage, vous qui faites partie de l'Académie des Oscars, de l'Académie des Césars, qui passez votre vie en voyage, votre sac en témoigne et vos différents téléphones portables? Qu'en est-il aujourd'hui, Ezan Palsy?
Ben, concernant les journalistes, oui, il y a quand même quelques-uns, il y en a. Il y en a davantage aux États-Unis, par contre.
C'est important de dire la différence,
absolument,
peut-être.
Absolument. Oui, tout à fait.
Aux États-Unis, vous êtes davantage interviewé par des personnes noires.
Il y a davantage, en tout cas, davantage de journalistes noirs qu'il y en a en France. Ouais.
Et ça change vos entretiens ?
Non, c'est pas du tout ça, mais c'est que ça veut dire que moi je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que ça ne les intéressait pas d'embrasser cette carrière, ou est-ce qu'au contraire c'était tellement compliqué d'être admis pour faire ce métier, et j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques journalistes ici, par exemple. J'ai posé la question
en
à
France.
Quelques... Oui, en France, j'étais à Cannes d'ailleurs, et je lui ai dit, mais quand, où sont-ils, quoi? Où êtes-vous? Et il y en a un qui m'a dit, mais tu sais, c'est pas évident, parce que bon, mais même quand on est là, on a du mal, quoi. On a du mal à entrer, quoi. À entrer et à se faire admettre, etc. Donc, on se bat, on fait comme on peut. Alors, donc, c'est ce qu'on m'a donné comme réponse, en tout cas. Et aux États-Unis, ben, je sais pas. Je pense que les choses sont différentes, parce qu'il y a eu... déjà au niveau de la représentation des Noirs, il y a un travail qui a été fait, ça n'a pas été donné, ça n'a pas été un cadeau. Les Noirs américains se sont mobilisés, ils se sont battus, ils ont arraché les choses. Tant au niveau du racisme qu'au niveau de la représentation à la télévision, voilà, ils sont à Baudrouet. Ça ne gêne personne, au contraire, tout le monde est content. On ne dit plus, ah, c'est des Noirs qui jouent. Non, non. Ils sont dans les films, dans les séries, Et grâce au système de quotas, même si je déteste l'idée même de quotas pour exister, comme je déteste la loi de la parité, mais en même temps, je suis consciente, heureusement que ça existe, parce qu'au moins, si c'est pas respecté, il y a une loi qui permet justement de revendiquer et de se faire respecter. Mais je dis que on est au 21e siècle, dans un monde qui va, les choses vont tellement vite, ça évolue. Je ne comprends pas que des choses comme ça, que ça nécessite l'existence de lois pour justifier une présence ou une chose qui est légitime, quoi. Donc c'est pareil. Donc si aux États-Unis il y a davantage de journalistes noirs, et c'est parce que justement également qu'il y a davantage de comédiens au niveau du théâtre, au niveau de la télévision, et dans d'autres secteurs, voilà quoi. Ce n'est pas uniquement que le journalisme, hein. Il n'y a pas que dans ce domaine-là qu'il y a davantage. Mais ici, tout est à faire, quoi. Et on se demande pourquoi.
Vous pensez que la question de la représentation, c'est un levier indispensable. Le fait de pouvoir se voir à l'écran dans 1000 vies possibles, ça fait qu'on est en mesure de s'engager dans la société. En tout cas, que c'est un levier important pour avoir la liberté de s'engager dans la société dans 1000 vies possibles, Eusanne Palsy.
Moi, je pense que c'est légitime, c'est normal. Et j'estime que un peuple, des gens qui ne se voient pas, qui ne se voient pas à l'image, qui ne peuvent pas déjà s'aimer eux, ne peuvent pas aimer les autres, partager comme il faut, donner, ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leurs possibilités, ils savent pas qu'ils sont beaux, ils savent pas qu'ils sont intelligents, parce que justement, on n'a jamais valorisé cela. Bon, bien sûr, je ne dis pas qu'il va absolument être comédien, se voir à l'image, etc., pour découvrir qu'on est intelligent ou pas. Mais je dis que c'est indispensable, c'est très important. Regardez un peu un bébé, même les oiseaux, quand ils voient leur image comme ça à travers une vitre, ils ont l'impression que c'est un autre qui est là, ils ont envie de communiquer, de toucher. Mais voilà, donc c'est normal. Donc, et je le dis tout le temps, un peuple qui ne se voit pas à l'image, et qui ne crée pas ses propres images, qui ne se les approprie pas, il est voué à disparaître. Et ce sont d'autres personnes qui vont venir vous filmer, vous mimer, dire vous êtes comme ci, comme ça, voilà, c'est ça votre histoire. Et puis, c'est pas possible, quoi. Donc, on ne peut pas avancer dans la vie. Moi, je vais vous dire, pour répondre totalement, très sincèrement à votre question, je vais dire plus avant, quand il y a eu le problème des banlieues, où les gamins mettaient le feu aux voitures, etc. En 2005. J'étais de passage à Paris. Moi, j'étais bouleversée. J'en ai pleuré. Et parce que ce sont des choses qui me bouleversent, qui me touchent profondément. Parce que je sais trop ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, je ne parle pas, on ne m'entend jamais. Mais ça ne veut pas dire que je n'en souffre pas et que je n'en parle pas du tout autour de moi. Bon, et j'ai plutôt tendance à agir. J'agis davantage que je ne parle. Ça veut dire que j'agis de manière souterraine. Personne ne sait. Il y a des choses qui bougent. On ne sait pas que je suis passée par là. Mais moi, j'agis comme ça. Bon, donc, je suis allée, j'ai demandé audience au président Chirac. Et là, je dis, voilà, il faut absolument faire quelque chose. Donc, parce que moi, j'aime bien les gens qui se plaignent. Hein. Moi, je suis une femme d'action. Se plaindre, c'est bien, mais ma grand-mère m'a toujours dit, tu te plains. T'as 10 minutes pour te plaindre, mais tu as une minute pour agir, pour trouver une solution. Mais moi, j'applique ça. Donc, j'ai demandé audience parce que je me suis dit, j'ai l'impression de savoir un peu ce qui pourrait aider à mettre un terme à tout cela. Et j'ai pris contact, je peux le dire aujourd'hui très simplement, j'ai pris contact avec Édouard Glissant, qui est à New York. Et je lui dis, c'est un ami, je lui demande conseil, c'était un ami de Monsieur Villepin aussi, voilà. Donc je lui dis, j'aimerais communiquer ce courrier à Monsieur Villepin. Il m'a dit, il a lu mon courrier, il m'a dit d'accord, non tu as raison, tout à fait, c'est très bien. Il a appelé, il a dit voilà, elle demande audience, voilà le courrier, etc. On a récupéré ma lettre, tout ce que j'avais, on m'a jamais accordé cette audience. Et quelques jours après, il y a le président Chirac qui passe à la télévision. Et qui reprend les termes de ma lettre. C'est la première fois que je le dis à l'antenne. Je n'ai jamais parlé de ça. Les termes de ma lettre. Qu'est-ce que je disais dans ce courrier?
C'est ça qui nous intéresse surtout.
Qu'est-ce que je disais? Je demandais, je disais, voilà, faites ce que vous voulez. Vous allez inventer tout ce que vous voulez. Il y a une chose, l'éducation c'est quelque chose d'important, d'extrêmement important. La représentation est quelque chose d'extrêmement important. Je dis, ces jeunes, les caméras vont dans la banlieue lorsqu'il y a du grabuge, pour les filmer en train de mettre le feu ou de gesticuler devant les caméras, parce qu'ils se voient ensuite à la télévision. Et tout le monde y va. Mais il n'y a rien qui les valorise. Voilà, faites des films, faites des séries, montrez, donnez-leur de quoi s'exprimer, donnez-leur des héros, justement, positifs. Et vous allez voir que peut-être que ça va, je ne dis pas que ça va régler le problème, mais ça va contribuer à régler le problème. On va les, je dis par exemple, il faut qu'il y ait des rencontres entre les créateurs, les cinéastes, dans les banlieues. Projetons les films là-bas, organisons des débats, discutons avec ces jeunes. Donnez-leur envie d'être différents donnez-leur le sentiment qu'ils existent et qu'ils ont des choses à dire et qu'on entend ce qu'ils ont à dire et qu'on leur donne les moyens de s'exprimer. Voilà tout ce que je disais, moi. Et que les gens, je disais, donc, il fallait que les différents partenaires se mettent autour d'une table, de la même table, tous ces gens qui font la télé et qu'ils discutent.
Mais vous savez, Ezzat Palsy, c'est fou de vous entendre dire ça parce qu'on est donc bientôt 15 ans après. Alors je ne sais pas à quel point M. Chirac vous a écouté ou M. de Villepin. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de politique destinée aux banlieues, en périphérie des villes. Mais est-ce que les choses ont vraiment changé? Des débats, il y en a eu. Des rencontres avec les cinéastes, il y en a eu. Et pour autant, est-ce qu'on a donné à ces jeunes-là la possibilité d'exister, pour reprendre vos mots?
Non, pas du tout. Parce que vous savez, en fait, tout, c'est des choses de surface. C'est des choses de surface. Je suis désolée, moi j'ai vu, je connais trop bien la valeur, le pouvoir de l'image. Je lui dis qu'avec un simple film, vous pouvez créer une révolution dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On peut changer toute une vie, des vies, avec un film. Voilà, on peut créer des milliers de vocations. Donc c'est pour cela que très jeune, quand j'avais 10 ans et que j'ai dit je veux faire du cinéma, j'avais déjà compris et ressenti ces choses-là. Je ne pouvais pas mettre les mêmes mots d'aujourd'hui de la même manière, mais je vivais ça au fond de moi. J'étais frustrée, j'étais malheureuse. Je disais ah non, c'est pas possible. Pourquoi nous ne sommes pas là? Je supportais très mal l'idée d'aimer le cinéma autant et que cet art que j'aime autant me blesse autant.
Parce que d'une part, il ne montrait que des femmes et des hommes blancs.
Exactement, et qu'on était absents. J'ai dit, on est plus moche que les autres, on est plus cons, nous sommes des incapables, etc. Non, je suis désolée. On a l'impression que parce que vous êtes différents, vous êtes d'une autre couleur, on n'a pas le droit d'exister comme tout le monde là. Bon, aux États-Unis, c'était pire. Mais ce qui était important, c'est que au moins ça a évolué. Les gens ont bougé, les cris ont été entendus. Et on a réglé le problème.
Alors, pas le problème des violences aux États-Unis, parce qu'évidemment, le nombre de violences policières montre que la question des hommes noirs, notamment, ou du taux d'enfermement dans les prisons américaines, dévoile de très fortes inégalités. Mais Ezzat Palsy, ça m'intéresse ce que vous dites sur quand même la différence entre le continent américain et, on va dire, très largement le continent européen ou la France. Aujourd'hui, France Culture consacre toute une journée à ce qu'il a appelé le modèle noir, reprenant une exposition du musée d'Orsay qui s'intéresse à la représentation des femmes noires et des hommes noirs dans la peinture. Qu'une radio française ou que la France en soit encore, j'ai envie de dire, à s'interroger sur la représentation des personnes noires dans l'histoire de l'art, ça veut dire que le chemin est encore long, Ezzat Palsy.
Il est évident que si les gens se posent cette question, ça me fait penser, je crois que c'était dans les années 50, si je ne m'abuse, où avec Gobineau et d'autres, on se posait la question, est-ce que l'homme noir a une âme? Ça me fait penser à ce genre de choses. Hein? Donc, je vais dire que si on se penche là-dessus, c'est parce qu'il y a un problème et que les gens sont quand même conscients qu'il y a un vrai problème, que les choses bougent ailleurs et qu'en France, ça se creuse, en Europe, ça se creuse et que ça va péter un jour. Parce que qu'est-ce qu'on a? Les gens ont passé leur temps justement à masquer les choses au lieu de les régler. C'est comme si vous avez une maison, vous avez votre salon, vous avez votre moquette et qu'il y a de la poussière, il y a plein de trucs. Vous soulevez la moquette et puis vous mettez ça sous la moquette. Ça fait comme une petite montagne. Et puis à un moment donné, ben ça explose. Donc c'est ce qui se passe en fait. Donc il y avait le problème des femmes et puis le problème des minorités. De toute façon, vous faites pas d'illusions. C'est la même chaîne symbolique. Hein. Je veux dire que la femme considérée comme bon voilà, comme c'est une enfant, il faut donc décider pour elle, ou bien oui elle fait le même métier que l'homme, mais attention, c'est une femme, hein, donc elle peut pas, elle mange moins déjà qu'un homme. Un homme, ça doit manger bien davantage, et ils font le même boulot, mais c'est quand même un homme, l'homme doit toucher davantage, etc. Bon, c'était ça. Mais le noir, c'est pareil. C'est le grand enfant, c'est l'irresponsable, il faut gérer les choses pour lui. Ah non, il n'est pas capable de faire ça, de penser, etc. C'était ça, tous ces clichés qui étaient véhiculés. Et aujourd'hui, c'est vrai, il faut le reconnaître, ça a beaucoup évolué. Mais l'évolution, je veux dire, comparé à ce que ça devrait être, c'est infime, quoi. Malheureusement.
Vous avez vu le voleur, le chien? Il y a vraiment pas moyen avec ces gens-là. Ah vraiment, hein? Je déteste cette race.
Il ne faut pas parler comme ça.
Quoi? Je te dis que je déteste cette race-là. Comment veux-tu que je sois fière de ma couleur lorsque je vois ces gens-là faire des cas tous les jours? Tout ça me dégoûte. D'ailleurs, sauf ma couleur, je ne suis pas nègre. J'ai un caractère de blanc.
Je suis sûre qu'aucun blanc n'a jamais crié « je hais ma race » quand un blanc comme lui a commis un vol ou même un assassinat. Alors pourquoi, pour rien du tout, vous êtes prête à donner au diable tous les nègres du monde?
Tu ne me comprends pas, José. Cela me fait tellement mal de voir que quelqu'un qui est déjà noir fasse encore quelque chose de mal. Même un petit rien que sous le coup, je jetterai ma race au feu.
Si je comprends bien, vous n'épouseriez qu'un blanc alors?
Comme ça, au moins, mes enfants auraient la peau sauvée.
Bon. Il faut que j'aille rencontrer ma grand-mère. Au revoir, mademoiselle Flora.
La peau sauvée, au double sens du terme, Zane Palsy, c'est un extrait de votre film Rue Cazenègre, 1983. Il y a donc plus de 35 ans, qui va être diffusé à l'occasion de ce Festival des femmes à Créteil, dont vous êtes l'invité d'honneur. 1983... Vous êtes déjà consciente que votre art sera éminemment politique et que toute votre recherche esthétique portera sur des questions qui ont à voir avec l'inégalité sociale, avec le racisme?
Non, à cette époque, non, parce que bon, j'étais consciente de tout cela, bien sûr, mais je n'ai pas fait le film pour ça, forcément. C'est-à-dire qu'il fallait dire ces choses-là, il fallait j'avais envie de crier ces choses-là, de les dire, et je ne fus pas la seule, la première à le faire, puisque Césaire l'a fait avant moi, Zobel l'a fait avant moi, plein d'autres l'ont fait avant moi, Fanon, etc. J'étais contente effectivement de tomber sur un roman, et cette scène par exemple, je vous assure que cette scène, elle est violente.
Elle est très violente.
Elle est extrêmement violente.
On la resitue juste, hein, du coup, hein, c'est un petit garçon qui est au cinéma, pardon, et qui discute avec la guichetière.
Voilà. Et cette scène qui est dans le roman.
Dans la Martinique des années 30.
Dans la Martinique des années 30, absolument, il faut le préciser. Dans cette scène qui est dans le roman de Zobel, ce passage-là, je ne l'ai pas écrit. J'en ai écrit plein d'autres, mais celui-là, il était parfait. J'ai pas touché, je n'ai pas inventé. Alors, j'aurais pu décider de ne pas le mettre dans le film. Si je vous dis que partout où il y a eu une projection de ce film, aux États-Unis, en Europe, etc., on m'a souvent demandé, quand il y a un débat après, vous êtes dur avec cette caissière, pourquoi les gens, non, ils n'ont pas compris. Ils pensent que je suis dure avec mon personnage. Je dis non, vous n'avez rien compris.
Vous montrez la complexité de ses sentiments.
Je dis au contraire. Ce que je fais en mettant cette scène de Zobel dans le film, et en demandant à une comédienne de dire ça, c'est pour vous montrer à quel point le système était pourri, justement. Il était monstrueux, et qu'il inculquait, tellement monstrueux, qu'il inculquait aux gens la haine de ce qu'ils sont. La haine d'eux-mêmes. Quand elle dit que ça me fait tellement de peine, tu comprends, que quelqu'un qui est déjà noir, vous imaginez, le langage est bien choisi, hein, qui est déjà noir. Ça veut dire que quand on est noir, on est déjà, c'est pas bon du tout. C'est une catastrophe. D'accord? Et que vous fassiez encore un vol? Non, non, c'est pas possible. C'est too much. Alors, et c'est vrai que c'était ça. Et cette pauvre fille, Elle est une victime de ce système. Elle reproduit ce système comme ça, bêtement, par ignorance. Voilà. Donc c'est ce que moi, et le gamin, ce n'est pas pour rien que moi, le gamin va dire, mais faut pas parler comme ça, faut pas dire ce genre de choses. Hein?
Est-ce qu'un blanc acculerait et mettrait au feu sa race entière s'il voyait d'autres blancs?
Comment lui sort ça? Et ça, c'est moi qui ai écrit ce texte, par contre. Donc, et lui dit, mais tu ne me comprends pas. Elle lui dit, mais non, c'est pas pour. Alors, si je comprends bien, vous n'épouseriez qu'un blanc. Et qu'est-ce qu'elle répond? Ça va de pire en pire. Elle dit, au moins comme ça, mes enfants auront la peau sauvée. Alors, je vais vous dire une chose. Ça, c'est moi. L'histoire de peau sauvée. Parce que quand j'étais gamine, je vous assure qu'on m'a empoisonné la vie avec cette expression. Mais j'ai détesté cette expression quand j'étais
morte. Qui signifie quoi exactement? Quand on dit avoir la peau sauve, c'est s'en sortir, mais ça peut être aussi la couleur de la peau.
Oui, oui, attention. Quand aux Antilles, cette société coloniale de l'époque, on disait, quand une femme mettait au monde un enfant, et que l'enfant avait la peau un peu claire, un peu café au lait, on se penche sur le berceau de cet enfant et on dit « Ah, oh, il est beau ou elle est belle. Hein? Ah, elle a la peau sauvée. » Alors, ça voulait dire... Non, mais c'est ça fait mal, hein, je vous assure. Ça voulait dire que cet enfant-là, en voilà un qui va échapper aux cannes du béquet, qui va échapper à la misère. Parce que avec sa petite peau sauvée, justement, il ou elle aura une chance de faire des études et d'être fonctionnaire. C'est ça que ça veut dire. Alors, moi, j'ai tellement entendu ça dans mon enfance que j'entendais ça, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et jusqu'au jour où j'ai posé la question, en grandissant, j'ai posé la question à mes parents, j'ai dit, mais pourquoi on dit, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire de peau sauvée, c'est quoi ça? Et mon père m'a expliqué. Il m'a dit, mais ma chérie, mais voilà, c'est dégueulasse, mais c'est que, voilà ce que c'est ça. Et là, moi, ça m'a fait mal. Et je me suis dit, ah, d'accord. Donc, c'est ça. OK. Très bien. Et là, j'ai attendu. Et je voulais absolument un jour que ce soit dans un de mes films. Et ça tombait pile poil. C'est sorti dans Rue Cazenègre.
On est en 1983 avec Rue Cazenègre. Et votre cinéma, Eusanne Palsy, montre souvent des personnes qui prennent conscience du système d'injustice dans lequel ils sont pris. Ça peut passer par des enfants, ça peut passer par un père de famille qui, à un moment donné, va prendre conscience qu'il est à l'intérieur d'un système qui oppresse d'autres personnes. Et puis, un parcours comme ça va le faire réaliser. Idem pour un petit garçon, idem pour une grand-mère. Vous parlez des questions que vous adressiez à vos parents. Comment avez-vous pris conscience du système dans lequel vous avez grandi?
Très tôt, parce que mon père, il était cadre dans une usine, et je sais, je peux le dire aujourd'hui, les gens ne sont plus là, et lui, il est mort, il nous a quittés il y a 5 ans maintenant. Et si je suis cinéaste, c'est grâce à lui. Je l'entendais tout le temps pester, hein, je prends cette expression, parce que c'est contre justement ses employeurs qui étaient des béquets, voilà, des blancs créoles. Comment les gens étaient exploités, et que lui, il travaillait dans cette structure, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour aider justement ces pauvres gens à aller vers le haut, le nombre de mères de famille qui avaient des gamins qui avaient passé leur bac et qui voulaient partir faire des études en France, et qui venaient le voir, lui dit, Monsieur Palsy, est-ce que vous n'avez pas un petit job pour mon fils, parce que j'ai pas d'argent ou ma fille pour aller faire des études, mais si vous pouvez lui donner même un petit rien à faire, mais ça va nous aider pour qu'il parte faire ses études. Non seulement mon père, il inventait un job pour ces jeunes, mais le jour du départ du gamin, quand il va dire, oh, sa mère vient à la maison, il vient dire au revoir à Monsieur Palsy et merci. Eh bien, mon père, je le voyais, je le connaissais tellement, je le suivais des yeux, et je l'ai vu faire ça au moins une vingtaine de fois. Les gamins viennent, et après, donc, les mamans parle, et mon père s'éloigne avec le gamin, la jeune fille ou le garçon. Ils vont dans le jardin comme ça, ils parlent, et mine de rien, comme ça. Et il lui glisse une enveloppe dans la poche. Voilà. Donc, il y contribue à lui aussi. Donc, voilà. Donc, très tôt, j'ai grandi là-dedans. Et mon père, il nous parlait tout le temps de cela, parce qu'il vient d'une famille qui s'est bâtie, qui s'est faite toute seule, qui est une famille pauvre, contrairement à ma mère. Mais lui, il vient d'une famille de travailleurs. Il n'a pas pu faire ses études parce que quand il a eu son je crois que c'était le BEPC à l'époque,
le brevet des écoles, le certificat d'études.
Ah oui, c'était après le certificat d'études, c'était un peu plus élevé. Mais il avait envie de faire des études. C'était un homme, mais il était très cultivé, très il avait soif de culture et il était très érudit. Mais il fallait qu'il aille travailler pour aider sa mère, qui était veuve, à s'occuper des autres petits. Donc, il l'a fait. Il est très fier d'avoir aidé ses frères à faire des études. Il y en a qui ont terminé colonel, etc. Voilà. Mais il connaît la valeur des choses. Et il a tenu à inculquer à ses 6 enfants ces valeurs-là.
Voilà. Ça, en vous écoutant, je pense à la figure d'un très vieil homme extrêmement important dans le film Rue Cazenègre. Et c'est pour ça que c'est intéressant, Ozane Palsy, que vous disiez que tout part de l'usine et de la conscience, en fait, de l'exploitation de l'ouvrier. Parce que ce vieil homme, s'adressant au petit garçon, lui dit, tu vois, pendant des années, nos ancêtres ont lutté contre le maître. Et une fois qu'ils se sont libérés de l'esclavage, ils sont devenus les ouvriers du patron. Mmh. Et je trouve ça très intéressant que la filiation entre l'esclavage et, même si évidemment on parle de deux choses différentes, mais tout de même, et l'exploitation ouvrière, elle est faite directement dans votre voix, Ozane Palsy.
Il y a une vérité des enfants qui est assez négligée au cinéma, donc je sens là un domaine où j'ai des choses à dire. Et parce qu'en général, on ne met pas d'enfants dans les films, on les met que quand ils sont vraiment nécessaires, on n'aime pas mélanger les enfants et les adultes, et on arrive à une espèce d'injustice que la représentation des enfants dans les films n'est pas proportionnelle à leur importance dans la vie. C'est un domaine qui est presque sacré, c'est-à-dire que quand on fait une chose mal avec des adultes, bon ben on fait une chose mal avec des adultes, ils peuvent se défendre. Quand on fait une chose qui n'est pas bien avec des enfants, ça touche au blasphème, parce que l'enfant c'est sacré. Il y a quelque chose, je crois que presque tout le monde est d'accord sur cette idée que l'enfant c'est sacré, parce qu'elle est innocente, parce que le combat n'est pas égal, donc on doit être, de même qu'on doit se conduire mieux avec les enfants qu'avec n'importe qui. Et c'est pareil évidemment en art, c'est pareil en cinéma. Et une chose que je trouve odieuse, c'est de faire dire à des enfants des choses qui vous arrangent, des dialogues adultes, des faux mots d'enfants, de leur donner des réactions d'une psychologie qui est à soi. Et curieusement, on peut imaginer que dans un drame dans la vie, et auquel seront mêlés des enfants, par exemple un divorce, on peut imaginer que des enfants auront des mots qui seront en relation avec cette situation. N'empêche que si on fait le film, eh bien, il est dégoûtant d'inventer ces mots. Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. Le fait même que l'enfance est censée être spontané, qu'on ne peut pas donner à un enfant une chose vraiment écrite et articulée. Le seul moyen de montrer des enfants vrais dans une situation, c'est de ne pas leur faire parler de cette situation. Ces phrases me rendront malade de colère, parce que je sais que le cinéma doit donner une impression de vérité, que cette impression de vérité ne peut pas marcher avec un enfant disant des phrases que j'appelle des phrases utilitaires. Parce qu'il y aura aussi la vie qui est plus forte, et je sais très bien que ce qui est frappant dans la vie, c'est qu'on arrivera un jour dans cette maison et que l'enfant sera en train de jouer comme si de rien n'était. Son problème sera dans sa tête, vous voyez, parce que c'est un enfant. Alors je trouve qu'en suivant l'enfant d'une façon très documentaire à ce moment-là, on verra peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre dans son regard ou dans sa tête, mais il faut le filmer normalement, en train de jouer, le filmer dans une chose qui apparemment n'a pas de rapport avec la situation. Je crois que ça, c'est plus honnête. Et qu'à la fois, le résultat artistique sera plus net aussi, sera plus pur.
1976, la voix de François Truffaut au micro de Paul à Jacques pour les après-midi de France Culture, Ozane Palsy. Je pense évidemment à l'ouverture d'une saison blanche et sèche où on voit des enfants qui jouent, mais je pense à toutes les scènes dans Rue Cazenègre où on voit aussi des enfants qui jouent, et surtout, je pense à tous les regards. Alors je sais pas, vous allez nous dire que vous mettez en scène, que vous écrivez précisément ou que vous filmez parce qu'ils arrivent, des regards qui disent la manière dont les enfants comprennent pas à pas toutes les relations de domination, toutes les injustices, tous les espoirs, tous les moments où ça bouge. Quelle réaction à cette archive de Truffaut ?
C'est fabuleux, il a raison. Et il a totalement raison, je pense, de ce point de vue. J'ai beaucoup de respect pour les enfants, et c'est pour ça que dans tous mes films, moi je crée pour les enfants. Je crée avec eux, je crée pour eux, et dans tous mes films, vous avez des enfants. Vous avez Rue Cazenègre, c'est ce petit garçon. Vous
avez... Ils font flamber, oui, ils boivent du rhum, et on sent que la transgression commence, en fait, d'une certaine manière.
Vous avez donc Siméon, c'est une petite fille, avec, il y a toujours cette dualité de personnes âgées, c'est la grand-mère avec le petit garçon, là, c'est le professeur de musique qui peut être un grand-père spirituel, c'est pour la gamine. Dans une saison blanche et sèche, vous avez donc, c'est encore ces gamins de Soweto qui vont se réveiller, quoi, Soweto va exploser. Et ces enfants, donc, ils vont être torturés, on va les tuer, etc. Dans Ruby Bridges, c'est l'histoire de cette petite, cette gamine de 6 ans qui va pour la première fois entrer dans une école de blancs réservée jusque-là aux blancs, qui va subir les foudres de la colère des gens du Sud, des amis de Monsieur Trump. Donc, et puis qu'est-ce que j'ai fait encore? Et avant tout cela, j'ai participé à un long métrage, mais qui est une sorte de piano à plusieurs mains, de partition à plusieurs mains, qui s'appelait How Are the Kids?
Comment vont les enfants?
Voilà. Il y a Jerry Lewis qui a tourné, il y a moi, il y a d'autres. Enfin, ça fait une heure et demie, mais je sais plus combien de réalisateurs en étaient, peut-être 13, j'en sais rien. En tout cas, j'ai choisi de faire quelque chose sur le Niger, sur des jumeaux, comme ça, voilà. Bon. Donc, je me suis toujours, toujours intéressée aux enfants. Et même avant de faire du cinéma, quand j'étais étudiante, j'ai effectivement sorti un album de chansons pour enfants. J'ai donc amené les enfants. Je suis celle qui a amené aux Antilles, pour la première fois, les enfants à la télévision. Ça veut dire que j'ai organisé, justement, des shows avec les gamins. Les faire chanter, s'exprimer, danser, sur mes morceaux de musique, quoi, mes chansons. Et j'avais aussi une émission qui s'appelait Exclusive Timoun. Ça veut dire les enfants en exclusivité, quoi. Timoun, c'est en créole, c'est les enfants. Alors, j'avais cette émission. Pendant que je faisais mes études à Paris, chaque fois que je rentrais donc aux Antilles, j'allais à la télé ou à la radio, et je proposais des choses. Et je travaillais avec les enfants. Ça veut dire que le studio était chez moi. Les gamins venaient, je les sélectionnais. J'allais partout sur les marchés, dans les supermarchés, dans la rue, je les observais, puis je trouvais mes petits personnages, quoi. Et c'était de l'improvisation. Aucun dialogue écrit, rien. Je discute avec eux, et je sais, ah, celui-là, il aime la musique, ou l'autre, bon. Ben, il y avait celui qui était Miss Disco, puisque c'était le disco qui était en vogue. Elle avait 5 ans, la petite, hein. Et bon, je les voyais comme des stars. Voilà. Et ça partait. On improvisait. Et les membres, qu'est-ce qu'on s'est éclaté avec cette émission? Et après, bon, c'était le temps des vacances et je repartais à Paris. J'ai donc tout ça pour vous dire que j'ai toujours, toujours travaillé avec les gamins. Et créer pour eux et avec moi, c'est pour moi.
Et filmer aussi, parce que
aussi, absolument.
Tous ces personnages principaux, mais aussi toute cette bande d'enfants à chaque fois qui est, même les manifestants finalement à Soweto que vous filmez, quand vous filmez leur visage, ils ont peut-être 15 ans, ils ont peut-être 20 ans, mais en fait c'est des enfants. Enfin, vous filmez vraiment des enfants qui se révoltent contre le système de l'apartheid. Alors, je parlais tout à l'heure de la mise en scène des regards pour être peut-être un peu plus technique et sur la manière de mener vos plans, Ozan Palsy. Est-ce que là c'est improvisé comme les émission exclusive Timoun, ou est-ce que là tout est écrit au millimètre pour réussir à montrer qu'un enfant prend conscience de l'injustice, un enfant regarde son père avec un œil nouveau, un enfant regarde sa grand-mère mourir ou regarde sa grand-mère se battre pour qu'il aille à l'école? Comment tout cela est écrit? Est-ce que vous les laissiez libres sur le tournage ou au contraire est-ce que tout était millimétré?
Non, on ne peut pas les laisser libres parce que, pour plusieurs raisons. Parce que le temps n'est pas élastique sur un plateau et l'enfant. Il y a la caméra, il y a tellement de choses autour de lui que c'est vrai que ça impacte totalement son ressenti et ce qu'il doit faire, etc. Donc il a besoin quand même de direction. Mais moi, ce que je fais, j'ai ma méthode avec les enfants. Ça veut dire que j'écris ma scène, je l'ai écrite. J'ai une petite, tiens, on va prendre un exemple concret. Vous avez vu Rue Cazenègre, vous vous souvenez de ce petit bout de chou qui avait quoi? Elle avait 5 ans. La petite Aurélie, celle qui va aller acheter le rhum, là. Bon, eh ben,
moi, je veux la récupérer une boîte d'allumettes pour mettre le feu, pour faire chauffer un œuf.
Voilà.
Et elle va mentir en allant à la petite boutique en disant que son père lui a demandé de rapporter du rhum et récupérer une boîte d'allumettes par la même occasion.
Exactement. Et c'est elle qui, dans ce que j'ai écrit, je me suis dit, comment amener les enfants à jouer, à me donner ce que je veux, mais sans être directive. Parce que si je dis oui, il faut que tu dises ça, que tu fasses ça, c'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas la bonne méthode. Donc, je travaille avec le gamin, je lui raconte une histoire, mais je lui pose des questions. Je lui dis, tu vois, par exemple, tu es la plus petite. Les grands, là, ils sont lâches, hein. Ils veulent pas aller prendre le risque d'aller à la boutique demander, l'allumette. Donc, ils vont mettre la pression sur toi. Alors, ils vont te dire, tu veux, ils n'ont jamais de leur vie goûter à un œuf. Parce que tout dans Louis Casnec, les objets, la valeur symbolique des objets, c'est extrêmement important dans ce film. Donc, un œuf. Quand il trouve l'œuf, il caresse l'œuf, il l'embrasse. Ils n'ont jamais goûté à un œuf parce que le monsieur là, qui, monsieur Julien Douzorteil, qui justement a les fruits, a les œufs et tout ça, eh ben, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il va vendre ça au béquet, à la femme du béquet. Ça lui fait un petit peu d'argent en plus, quoi. Donc les enfants n'ont jamais goûté à un œuf, même pas une banane. Bon. Donc, j'explique aux gamins tout ça et je dis à la petite, tu vois, ils vont mettre la pression sur toi pour que toi tu ailles à la boutique chercher l'allumette. Alors, comme tu as envie de goûter à cette œuvre, on te dit, si tu n'y vas pas, tu vas pas, quand ça va être cuit, tu n'en auras pas. Alors, comme tu es plus intelligente qu'eux, c'est comme ça que je parle à la gamine. Je dis, comme tu es beaucoup plus intelligente, tu es petite, mais tu es plus maligne. Donc, tu vas trouver une solution. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu feras? Tu vas aller à la boutique comme ça et tu vas dire à la dame, madame, voilà, je veux du rhum. Qu'est-ce que tu feras?
Elle vous dit de tourner.
Tu dis, on va réfléchir. Je lui ai dit, mais il faut que tu trouves quelque chose. Alors, et puis elle réfléchit. Elle me dit, je demande du rhum. Pourquoi tu demandes? Parce que papa, mais quand il arrive, il prend toujours son petit poche. Donc, il a besoin de rhum. J'ai dit, eh ben voilà, c'est génial, tu vois. Bon, eh ben, si tu vas chercher le rhum, il te faut d'une bouteille. Donc, je donne à la gamine l'impression que c'est elle qui écrit le scénario. C'est elle qui invente la scène. Comme ça, ça lui reste dans la tête. Parce que là, c'est comme si c'était elle qui l'avait inventé. Eh ben, quand elle arrive, donne-moi une bouteille. Elle part. Elle dit, monsieur, madame, bonsoir. Voilà, je fais tout son petit cinéma et tout. Et elle demande sa bouteille de rhum. Elle fait semblant de partir. Et puis, elle dit, ah oui, mais au fait, j'oubliais. Mais oui, il y a des allumettes aussi. Mais de manière très, comme ça, banale.
Superbe cette scène d'ailleurs, et en effet, superbe la manière dont cette petite fille se débrouille pour obtenir ce qu'elle veut. Mais Ozane Palsy, évidemment, quand on filme les histoires que vous écrivez, qu'il s'agisse de vos propres scénarios ou des adaptations, on se rend bien compte aussi que les enfants, c'est le monde de demain. C'est aussi la possibilité que ça change. C'est aussi peut-être ceux qui iront à l'école à la place de ceux qui n'y ont pas été, qui prendront la place dans la société de... pour l'instant, ceux qui n'en ont pas, on sent bien que ce n'est pas que l'innocence, que ce n'est pas que le jeu.
Ah non, pas du tout, parce que je suis totalement consciente, c'est pour ça que je m'intéresse aux enfants, pas seulement aux enfants, mais à deux types de personnages. Ça veut dire que aux enfants et aux grandes personnes, je dis, on dit aux seniors, machin, je dis aux grandes personnes, comme on dit chez nous aux Antilles. Vous savez, il y a toujours ce couple-là. Mmh. Parce que il y en a un des deux qui est une mine. Voilà. Et comme avait dit Mpateba, cet écrivain donc malien, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, qui flambe. Bon, c'est perdu. Donc, moi, ils ont tellement de choses à nous apprendre, donc, et ils sont en même temps fragiles, comme les enfants. Donc, c'est important pour moi qu'ils soient là, qu'ils nous nourrissent, et qu'on les voit, et qu'on leur dise aussi qu'on vous aime. Bon.
C'est d'ailleurs la manière dont vous les filmez. Hein. Vous les regardez et vous les aimez.
Merci. Et de l'autre côté, vous avez l'autre qui est un enfant. Un enfant, c'est une page blanche pour moi. Une page à remplir. Mais pas vous, vous n'allez pas la remplir. Vous allez faire avec, aider l'enfant à exister, à être et à remplir sa propre page. C'est l'avenir, justement. Et en même temps, ô combien fragile aussi. Et qu'il faut protéger. Donc, c'est pour ça que je suis terriblement attachée aux personnes âgées. J'aime les personnes âgées. Et quand j'étais gamine, je vous assure, mes parents pourront vous le dire, ils le disent tout le temps d'ailleurs, j'étais tout le temps dans les jupes des grands-mères, des personnes âgées. Mais les gens de mon âge ne m'intéressaient pas. Je m'ennuyais avec eux. Mais j'étais tout le temps avec ces gens-là. Je les aimais. Et tout ce que j'ai appris de ma Martinique, de mon histoire, mais c'est parce que j'étais avec eux, je leur posais des milliers de questions. Et après, dès que j'ai pu avoir, je me rappelle à l'époque, j'étais étudiante, j'avais une caméra Super 8, là, les fameuses caméras Super 8. Et bien, j'ai filmé. Je les filmais tout le temps. J'ai ma grand-mère qui nous raconte des histoires. Elle est morte, ça fait longtemps, j'étais encore étudiante. Bon. Je revois ma grand-mère vivante comme ça. Et là, j'ai fait des copies de ce petit film que j'ai fait sur ma grand-mère et j'ai donné à tous, aux enfants, aux petits-enfants. J'ai dit, il faut que vous ayez ça. Et quand je prends la parole dans les universités ou ailleurs, quand je m'adresse aux jeunes, je leur dis, mais écoutez, vous avez une chance extraordinaire d'avoir chacun un portable. Utilisez votre portable. Filmez vos grands-parents, filmez vos parents. Pressez-les de questions. Filmez-les. Demandez-leur de vous raconter leur vie quand ils étaient jeunes. Filmez-les. C'est très important.
Dernière question à propos des enfants, des jeunes enfants, Ozane Palsy. Ça rend, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, les scènes de violence d'autant plus insupportables. C'est-à-dire que l'image est ce qu'elle est, et que oui, battre un homme en pleine santé est horrible, mais battre un enfant de 5 ans est encore plus horrible. Faire subir une injustice crasse à un homme en pleine santé est horrible. Faire subir cette même injustice crasse à un enfant de 7 ans est encore plus horrible. Il se passe ça à l'image, Ozane Palsy. Est-ce que c'est aussi l'un des pouvoirs du cinéma, quand on filme un enfant, que de souligner davantage les inégalités et l'injustice?
Mais c'est, il faut utiliser le cinéma pour ça. Le cinéma doit remplir cette fonction sociale, entre autres choses. Parce que ce n'est, pour moi, le cinéma, ce n'est pas juste le divertissement. Mon cinéma, je veux qu'il divertisse, puisqu'on ne va pas enfermer les gens comme ça dans des problèmes, parce qu'ils n'iront plus voir vos films. Bon. Déjà, et donc, il faut amener les gens. Bien sûr que vous leur parlez. Il faut parler à leur mental, à leur cœur, à leur corps, à leurs fibres. Les faire rire, sourire, voilà, soupirer, pleurer, voilà. Tout ça à la fois. Et le cinéma, pour moi en tout cas, ce sont les fonctions qu'il doit remplir.
Et parfois se demander s'ils ne vont pas fermer les yeux. Il y a certaines scènes de torture, par exemple, où vous n'y allez pas par quatre chemins. De même, il y a certaines scènes de manifestation où des jeunes gens sont abattus à bout portant par des militaires. Vous n'y allez pas par quatre chemins, Ozane Palsy.
Non, parce que c'est la vérité. Alors je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Lorsque j'ai terminé mon montage à Hollywood,
une
saison blanche et sèche, a dry white season. Alors, les Américains, les studios, donc, ils ont vu mon film. Il faut que vous sachiez que le réalisateur, il y a très peu de réalisateurs, aux États-Unis, il y a peut-être 2%, hein, qui ont ce qu'on appelle le final cut. Ça veut dire le montage final. Ça veut dire que vous livrez votre film au studio, ça veut dire que c'est the director's cut. Ça veut dire le montage du réalisateur. Après, ça passe au niveau de ceux qui décident et ils vont regarder ça et puis ils vont dire « Oh, oh, non, non, ah, non, non, oh, non, ouh, surtout pas. » Non, non. Ils vont vous demander de retourner au montage et ils vont vous donner une liste comme ça de notes pour pouvoir reformater le film, mais selon leur volonté. Alors, ou vous acceptez de le faire avec la mort dans l'âme et vous n'avez pas le choix et vous le faites et vous êtes avec le monteur. Si vous dites « Non, I'm sorry, I don't do that. I disagree. » Eh ben, ok, au revoir. Donc, il charcute votre film, le monteur exécute, et votre nom reste à voilà. Vous vous rendez compte? Donc, c'est grave. Figurez-vous que, moi, j'ai dit, alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont un film, comme ça, ils ont un doute, ils se disent, est-ce que ça va passer, etc. Bon, et comme ils veulent pas perdre d'argent, ils organisent ce qu'on appelle des sneak previews. Ça veut dire qu'ils arrêtent les gens dans la rue, et puis ils disent, voilà, vous voulez aller au cinéma? Bon, c'est gratuit, tel jour, voilà. On met votre nom sur une liste. Et le jour J, les gens viennent au cinéma, ils sont contents. Ils ont l'habitude, c'est une éducation aux États-Unis. Donc les gens viennent, ils sont contents. Donc la salle est pleine. Alors ça veut dire qu'on jette votre bébé en pâture. Hein. Ça veut dire dans l'arène, et il peut perdre un bras, tous ses orteils, sa tête. Mais c'est comme ça. Alors ma productrice, moi j'ai jamais vécu ça. Ça n'existe pas en France. Elle m'a emmenée dans les toilettes. Elle m'a dit, écoute-moi ma chérie. Tu n'as jamais vécu ça, mais ici, c'est monnaie courante. C'est possible que quand le film commence au bout de 3 minutes, que la moitié de la salle se lève et vide les lieux. Les gens s'en vont. Et voilà. Et c'est possible que personne ne bouge. C'est possible que 300 ou 400. Donc, tout est possible. Alors, me dis, don't take it personally. OK? Mais c'est comme ça. Mais on n'a pas le choix. Alors, je lui ai dit, si jamais. Et puis, il m'a dit oui. Et puis après, on demande aux gens on leur donne des cartons. Avec des questions précises. Est-ce que c'est trop violent? Est-ce qu'il faut couper les scènes de violence? Ou est-ce qu'il faut les laisser? On pose toutes ces questions. Ça a été fait pour mon film. Bon. Alors. Et ensuite, ils analysent. Et ils disent, OK, bon, on va refaire ça. Ce film, Basic Instinct. Il y a eu au moins 4 retournages hein, pour la fin. 4 avec le truc là, de plus en plus horrible. Parce que c'était ça. Il fallait refaire, il faut aller plus loin, etc. Eh bien, mon film, Eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai dit à ma productrice, quand nous sommes allés aux toilettes, là, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on dit que c'est trop violent, qu'il faut couper, etc., oh, c'est utile, c'est indispensable que les gens voient ce qui se passe en Afrique du Sud. Une chose est d'en parler, mais c'est autre chose que de vivre dans le confort de ton fauteuil, dans une salle de cinéma, et que tu vois ce qui se passe dans un pays, et c'est la vérité. Alors, je dis que c'est violent. Oui, mais attends, eux, ils vivent ça, et bien toi, tu peux avoir le courage de rester ton derrière posé dans ton fauteuil, en train de regarder ça, et tu ne risques rien. Tu fermes les yeux, hein, d'accord, mais tu ne risques rien, tu ne vis pas ce qu'ils vivent, eux. Et bien pour moi, il fallait montrer que l'apartheid, c'est horrible. Parce que tout ce que j'ai montré, c'est la pure vérité. Il n'y a rien, il n'y a pas un gramme de fiction dans ce film. Parce que j'ai basé, moi d'ailleurs je n'appelle même pas mon film un long métrage, je dis que c'est un docudrama. Parce que j'ai voulu que ce soit presque comme un documentaire, presque, parce que tout ce qui est là, ce sont des choses que j'ai collectées. Quand je suis allée en Afrique du Sud, de manière souterraine, je suis entrée donc incognito à Soweto grâce au médecin traitant et ami de Nelson Mandela, qui s'appelle le docteur Ntato Motlana. Je suis entrée sous un faux nom. J'ai dit que j'étais une chanteuse. Bon, je ne mentais pas, parce que j'avais sorti des chansons pour les enfants. Bon. Donc, j'ai dit, voilà, je cherche des voix polyphoniques, comme Lady Smith Black Mambazo. J'aime ces voix sud-africaines pour mon prochain album. OK. Donc, tout le monde, c'est ce que j'ai dit. Mais en fait, tout était organisé avec une dizaine de mamans. C'était un dimanche, on est allé à la messe. Après, on est allé chez une dame, Madame Seroquet, qui est encore vivante. Et là, il y a 10 mamans qui sont venues avec chacune un plat différent. Et en fait, je les ai enregistrées. Elles m'ont raconté ce qu'elles ont vécu, ce que leurs enfants ont vécu. Donc, j'ai encore les bandes chez moi. Et j'ai quitté l'Afrique du Sud avec, je ne vous le cache pas, avec la cassette, c'était les grandes cassettes audio là, hein, dans mon slip, dans ma culotte, avec du sparadrap par-dessus. C'est comme ça que j'ai quitté l'Afrique du Sud avec ce matériel. Donc, et je me suis enfermée pendant 2 mois et j'ai dit, voilà. Et j'ai vu des corps d'enfants, des enfants mutilés, on a arraché les dents. Mais ce que vous voyez là, j'ai pas montré tout. Bon, j'ai montré ce qui se passe à Gordon, mais je n'ai pas montré ce que des enfants m'ont raconté. Ils m'ont montré leur corps, mais c'est horrible. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas faire ça. C'est tout. Même quand ils sont pourchassés par la police, hein, la chasse, là, quand on a tiré. Quand on m'a raconté que le nombre d'enfants, de bébés qui ont péri, étouffés par la fumée, les tire gaz. Parce que quand on lâche ça dans les maisons, les bébés peuvent pas courir, ils sont dans des berceaux, ils sont par terre sur des nattes. Il y en a plein qui sont morts comme ça, on n'en a jamais parlé.
Au moment des soulèvements, des manifestations.
Oui, au moment des soulèvements. Et là, comme par exemple, une autre chose qu'on m'a expliqué cela, on m'a montré des images. Les policiers avaient toujours ces gros chiens. Ils poursuivaient les gamins se réfugiaient dans les maisons et fermaient la porte. Les mecs, ils défonçaient la porte avec un coup de pied. Le chien à l'intérieur dévorait les enfants. Moi, j'ai montré le début, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Parce que je laisse au spectateur le soin d'imaginer ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais ça, c'est des choses c'est des témoignages. Donc, je me suis dit, si après, j'ai fait cette promesse à ces enfants, à leurs parents, si le studio me dit que c'est, ah non, non, c'est trop violent, alors que eux, ils font des films où on assassine, où on torture, on vole, on pille, on etc., ça ne gêne personne, mais ça, c'est trop violent. Alors, là, j'ai dit, je sors mon nom de l'affiche. Je ne veux pas que mon nom reste sur cette affiche. Et ma productrice m'a dit, I will do the same as a producer. Je ferai la même chose que toi. Et on s'est serré la main, on a dit, on est d'accord, oui. Et nous sommes repartis comme ça dans la salle, très fiers, comme ça. On a attendu. Eh bien, on a vu 2 personnes se lever, on a commencé à se regarder, on a eu peur. Ouh, c'est pas bon. Après, les personnes sont allées aux toilettes, sont revenues. Personne n'a bougé. Eh bien, je vais vous dire une chose. J'ai encore le document, la copie. Le film a eu excellent. 85% de excellent. D'accord? Comme Rain Man. Le même score que Rain Man. Est-ce qu'il faut couper? C'est violent. Oui. Très violent. Oui. Mais il faut pas couper. C'est indispensable. Et c'est comme ça, grâce à cela, que les studios n'ont pas enlevé ces scènes-là dans le film. Parce que le public a dit non, c'est très violent, mais c'est important. Ça fait partie de l'histoire et le film est au sujet de ça. Donc, c'est pas un truc pour faire sensation. Alors, j'ai dit, enfin, c'est super, c'est génial, quoi.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Eusanne Palsy.
L'écrivain doit reprendre un peu cette fonction-là dans ces circonstances où les journalistes ne peuvent pas le faire. L'écrivain peut essayer, peut contribuer à répandre des informations, des renseignements, mais il ne s'agit pas seulement de transmettre l'information, c'est une question d'essayer de convaincre le lecteur, d'inviter le lecteur à s'associer avec ce qui se passe dans le livre. Donc, de recommencer à voir par des yeux nouveaux, ou des yeux rouvris, de façon que le lecteur, quand il lit quelque chose, quand il rencontre quelque chose à travers d'un roman, fait une expérience ou vit une expérience différente de ce qu'il fait quand il rencontre la même information dans un journal. Maintenant, il voit des choses dans les termes d'une histoire qui ressemble un peu les modalités de la vie. Donc, il commence à comprendre. C'est pas seulement une question d'apprendre. La compréhension est peut-être plus importante.
C'est l'incroyable piano de Chico Gehlmann qui accompagne la voix d'André Brink en 1988. Ça va être la dernière archive pour notre discussion, Eusanne Palsy. C'est l'auteur du roman à partir duquel vous avez réalisé Une saison blanche et sèche. Dans ce qu'il dit, Brink, il y a l'idée que comprendre est plus important qu'apprendre et que comprendre se fait peut-être encore plus profondément quand on fait une expérience esthétique, une expérience par la littérature, par le roman et peut-être par le cinéma, pour parler de cet art que vous maîtrisez, vous, Eusanne Palsy. Est-ce que c'est comme ça que vous vivez. Faire du cinéma, c'est une manière encore plus profonde de comprendre le monde.
Tout à fait. Et puis, on a un sentiment de liberté, disons, quand on fait comme ça. Parce que, bon, quelquefois, quand vous imposez quelque chose à quelqu'un, bon, quelquefois, ça marche. Et d'autres fois, la personne, bon, elle peut être réfractaire, quoi. Elle a le sentiment que, oui, on m'oblige à. Donc, je ne le fais pas de mon plein gré. Donc, c'est vrai que c'est cette dimension-là qu'apporte de douceur et d'accompagnement. C'est une invite à lire et à comprendre, etc. Vous participez à la chose, en fait. Voilà.
C'est plus que ça. Quand on lit les journaux, par exemple.
Ouais, les journaux, voilà, on sait que bon, quelqu'un a écrit ça, comme ça, etc. Mais quand on a un livre, déjà, un livre, ça se tient dans les mains, on dort avec, etc. Bon, on s'enroule pas dans le journal pour se mettre au lit. Mais le livre, on peut le mettre sous son oreiller. On vient de coucher avec son livre. Il y a une intimité qui se crée avec le livre qu'on lit. On va aux toilettes, on a le livre. On me dit aussi qu'on peut aller avec le journal. Très bien. Mais c'est vrai que le livre, déjà, parce que c'est un livre, c'est un petit objet comme ça. C'est vrai qu'on a l'impression de se l'approprier. C'est mon livre, quoi. Voilà. Bon, le journal, c'est pas mon journal, c'est le journal qui est là, que tout le monde va lire, va feuilleter. Bon. Mais c'est vrai. Mais j'aimerais quand même vous dire une petite chose que beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est également la première fois que je le dis à l'antenne, sur Brink. Brink, il sait totalement de quoi il parle, parce que Brink m'a confié en 2008, il était à la Martinique, et on a approché une saison blanche et sèche. Quand j'ai su qu'il y avait donc une foire en Guadeloupe, on a invité des écrivains, donc on l'a invité. Je dis, il est à deux pas de la Martinique, il faut qu'il vienne. Parce que son rêve était de rencontrer Aimé Césaire. Parce que Brink a écrit un petit recueil qui s'intitule « Je suis né sur un banc de Luxembourg ». Pourquoi ? Parce qu'il est à la Sorbonne, il quitte l'Afrique du Sud, il vient à Paris faire des études à la Sorbonne. Et à la Sorbonne, il m'explique qu'il voit, on parle d'un homme, d'un noir, Aimé Césaire. Il sait pas qui est Aimé Césaire. Et puis, les gens, ça s'arrache le bouquin et tout, et puis ils voient des noirs et des blancs qui s'embrassent et qui se tapent dans le dos, et ils se disent, mais c'est tellement triste, regardez-moi comment c'est beau, c'est comme ça que ça devrait être à la maison, chez moi. Bon. Et il va à présence africaine, et il achète tout ce qu'il peut trouver sur ses airs. Et il va s'asseoir sur un banc au jardin de Luxembourg, et il dévore les bouquins de ses airs. Et il me dit que ses airs, tout ce que j'ai lu, mais ça m'a bouleversé, ça a changé ma vie. Et Césaire m'a fait prendre conscience que le véritable combat, parce qu'il voulait plus retourner en Afrique du Sud, hein, il voulait rester en Europe, le véritable combat, surtout quand on est écrivain, ça doit se faire à la maison. Donc il m'a dit, c'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je retourne en Afrique du Sud et que j'écrive, et que je dise les choses, que je dénonce les choses. Et mon rêve était de le rencontrer.
Et vous avez permis cette rencontre.
Voilà. Et j'ai permis cette rencontre à Brink. Ils se sont rencontrés. Les deux hommes se sont rencontrés. Ils ont pleuré ensemble.
Et en plus, Césaire, vous pourriez nous en parler longtemps parce que vous lui avez consacré de longs documentaires. Un grand merci, Eusanne Palsy. On pourra vous continuer de vous entendre parler sur vos films, sur le reste, sur la littérature. Maryse Condé, Aimé Césaire, tout le programme qui est consacré à votre œuvre est mis en ligne sur le site du Festival des films de Créteil. Un grand merci d'avoir été avec nous. Pour lire le programme des émissions de France Culture consacrées au modèle noir, ce programme dont je parlais tout à l'heure, franceculture.fr. Au son ce soir, c'était Alain Joubert à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Anna Baron, Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre et Camille André. Grand merci à Camille André. Bonne route, à bientôt. FranceCulture.fr, je l'ai dit. Dans un instant, le journal de France Culture. Très belle soirée à vous. On se retrouve lundi. Wangishiya selengetwa kunomathemba mama nomathemba mama wangishiya sekolile selengetwa kunomathemba mama nomathemba mama wangishiya semnambi selengetwa kunomathemba.